Que ferez-vous dans le royaume, mes frères et sœurs? Vous qui sont là depuis des années, vous avez bien réfléchi à ça. Vous savez exactement ce que vous allez faire, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous. Nous ne savons pas exactement tout ce que nous ferons. Toutefois, la Bible nous donne quelques indications. La Bible révèle le rôle que certains personnages bibliques auront dans le royaume. On va faire un petit topo de ça d'abord. Matthieu chapitre 19, verset 28. Commençons dans Matthieu chapitre 19, verset 28. Là, nous lisons, Jésus le répondit. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Nous avons déjà une petite indication de ce que le Christ va faire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alors, il parle à qui ? À 12 apôtres. Il parle à ces apôtres qui seront donc rois sur chacune des tribus. Et il y a encore une petite précision. Ils seront rois sur des tribus, mais sous David. Pourquoi sous David? Ben, c'est parce que la Bible nous apprend que David régnera sur les 12 tribus d'Israël. Jetons un coup d'œil dans Ézéchiel chapitre 37, partie de verset 21. Ézéchiel chapitre 37. Et nous allons commencer à lire au verset 21. Tu le diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts, je les ramènerai dans leur pays. Et je ferai de une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Et ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus de nations. Et ils ne seront plus divisés en 2 royaumes. Nous lisons, hein, le royaume d'Israël sera réuni. La division entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda n'existera plus. Verset 24, nous lisons, alors, mon serviteur David sera leur roi. Et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, qu'en habitaient vos pères. Ils y habiteront, eux, les enfants de leurs enfants, à perpétuité. Et mon serviteur, David, sera leur prince pour toujours. David sera le roi. Et puis, les 12 apôtres, sous David. Abraham. On pense à Abraham aussi. Romains chapitre 4, verset 13. Romains chapitre 4, verset 13. En fait, la Bible nous apprend qu'il héritera le monde. Romains chapitre 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Et nous sommes cette postérité. Nous hériterons le monde à venir. Héritier, si vous voulez. Mais dans sa grande sagesse, Dieu ne nous révèle pas exactement ce que nous allons faire, car il faut bien admettre que cela dépend de nous et ce que nous faisons maintenant. Comme M. Clark, comme M. Whitfield vous a dit dans leur message. Ça dépend de nous. Ça dépend des décisions que nous allons prendre. Cela dépend de la vie que nous allons mener d'ici là, le retour du Christ. Mais un jour, nous saurons exactement ce que nous ferons. Nous aurons des instructions précises. Dieu ne nous laissera pas dans le flou. J'ai donc coudé dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12. En Corinthiens chapitre 13, verset 12, nous lisons. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de la manière obscure. Mais alors, nous ferons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. C'est dans un miroir obscur, de manière obscure pour l'instant. Mais le sujet aujourd'hui de mon sermon concerne notre préparation au royaume, notre préparation au millénium, par extension le royaume bien entendu, notre préparation. Nous savons que nous devons nous y préparer. Nous sommes appelés pour cette préparation, n'est-ce pas? Et je voudrais que cette préparation soit bien concrète dans votre esprit, dans votre tête, afin de passer à l'action, sans plus tarder. Nous savons dans la grande ligne que dans le royaume, nous serons des êtres spirituels. Tous ceux qui sont restés fidèles après avoir été baptisés, et puis changés au retour du Christ, ou ressuscités, n'est-ce pas? Nous serons des membres de la famille divine. Nous serons donc des dieux soumis à notre Père et notre frère aîné. Nous savons aussi que nous serons des sacrificateurs et des rois. Notre rôle est que nous serons des enseignants, comme M. Clore nous a expliqué. Nous savons que de temps en temps, nous nous manifesterons physiquement comme le fit le Christ. Et lorsqu'il le fit, nous savons qu'il a partagé des repas avec certains individus, comme il l'a fait avec Abraham, comme il l'a fait avec ses disciples. Le Christ annonça à ses disciples qu'ils auront l'occasion de boire du vin avec eux dans le royaume. Marc chapitre 14, verset 25. Vous le notez, Marc chapitre 14, verset 25, qui dit: je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. Mais de manière spécifique, que ferons-nous? Nous ne le savons pas précisément. Dieu donnera des responsabilités à chacun. Et à ce jour, nous ne savons pas exactement ce que nous ferons. Toutefois, nous devons nous préparer pour le royaume. Alors, on croit devant nous nous préparer. Eh bien, voyons ce que nous devons faire, ou ce que nous pouvons faire concrètement. Pour cela, voyons des rôles que nous connaissons et demandons-nous ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour nous y préparer. Et pour cela, je voudrais passer en revue quelques rôles afin que nous réfléchissions à la manière dont nous devons nous préparer aujourd'hui, maintenant. Je veux que ce soit très concret pour chacun de nous. Car cette préparation, frères et sœurs, ne doit pas être abstraite, elle doit être concrète, claire dans votre esprit ce que nous faisons, ce que vous faites. Maintenant, il ne s'agit pas de paroles, mais il est plus que temps d'agir. Nous serons des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10, si vous voulez bien. Premier point, nous serons des sacrificateurs. Un ange puissant fera une proclamation très solennelle au Christ au moment de son avènement. Et dans cette proclamation, il fait une déclaration sans équivoque. Et cela nous concerne. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Vous serez des sacrificateurs. Un sacrificateur est une personne qui s'occupe du peuple de Dieu. Le sacerdoce moderne est le ministère. Un ministre est une personne qui doit parfois prendre des décisions, mais c'est surtout un serviteur du peuple de Dieu. Et dans le royaume, nous serons des serviteurs bienveillants, des personnes qui vivront sur terre, qui seront des êtres humains, des survivants. Comment pouvons-nous nous préparer pour ce rôle de serviteur aujourd'hui? C'est ça que vous devez faire tourner dans votre esprit. Comment faire? Eh bien, tout simplement en saisissant toutes les occasions de servir. Et elles sont nombreuses. Je tiens à remercier tous ceux qui sont venus nous aider à préparer la salle, par exemple, pour vous. Il y a un aspect du ministère qui me tient particulièrement à cœur. Un ministre n'est pas un personnage austère ou autoritaire, sauf quand c'est bien évidemment nécessaire. Mais un passage biblique me touche particulièrement dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 24. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 24. Paul s'adresse aux Corinthiens, n'est-ce pas? Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 24. Et il déclare ici, « Je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe, non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre foi, car vous êtes ferme dans la foi. » Alors concrètement, vous pouvez cultiver entre nous une attitude positive. Nous pouvons contribuer à la joie collective, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire que si vous êtes affligé, vous ne pouvez pas en parler. Au contraire, nous sommes une famille et nous devons nous encourager les uns les autres et souffrir ensemble quand c'est nécessaire. Quand un membre souffre, mais positivement un maximum. Il y a toujours quelque chose à apprécier, même dans l'épreuve. Jacques, chapitre 1, verset 2 au verset 4. Jacques, chapitre 1, verset 2 au verset 4. Jacques chapitre 1, verset 2, verset 4, nous lisons ici. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Quelque chose que nous pouvons faire maintenant. Ça, c'est un aspect de notre rôle de sacrificateur. Et puis, nous serons des rois, nous avons lu. Nous allons gouverner. Nous avons lu lors du point précédent dans Apocalypse 5, On va le relire. Hein? Nous allons devenir un royaume de sacrificateurs. J'ai pris la version Darby. Et je pense que le Darby traduit mieux ce passage. En anglais, c'est déjà clair, mais pour les Français, nous allons le relire dans la version Darby, Apocalypse chapitre 5, verset 10, qui dit « Tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu. » Nous n'aurons pas une couronne sur la tête sans fonction concrète. Le Christ va distribuer des responsabilités à chacun. Luc chapitre 19, verset 17. Luc chapitre 19, verset 7. 17, pardon, 17, verset 17. Luc 19, 17. Luc chapitre 19, verset 17, nous lisons. Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Et le nombre de villes dont les serviteurs sont responsables varie. Ce nombre varie selon la façon dont nous aurons développé nos talents. Nous avons tous des talents différents. Et nous avons pour responsabilité de les développer. Responsabilité personnelle et collective. Mais je vous parle personnellement pour le moment. Sinon, nous risquons de tout perdre. Verset 20. Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine. Je l'ai gardée dans un linge, en poche. » Et le résultat pour n'avoir fait fructifier ses talents, le verset 24 est très clair, « Ôtez-lui la mine. » On risque de tout perdre. Cette responsabilité, frères et sœurs, fait partie de notre façon de préparer pour le royaume. Nous devons les développer. Nos talents, nous devons les développer maintenant. Nous ne pouvons pas nous contenter de voir certains talents. La parabole est claire. Il faut tout faire pour les développer. Certaines personnes ont un don pour tout ce qui est calcul et logique. Nous avons des ingénieurs ici, nous avons des professeurs de mathématiques. D'autres personnes ont un don pour la musique. Moi, je ne l'ai pas. Je fais beaucoup de bruit. Avec joie. Beaucoup de joie. Mais quand je vois la famille Boyer, hein? Madame Boyer a bien travaillé, n'est-ce pas? Monsieur, ne parlons pas. D'autres encore entendons pour le contact avec les autres. Certains d'entre nous sont extrêmement doués avec leurs mains. Vous avez des métiers. Vous voyez, ces talents, Dieu nous les a donnés. Nous devons les développer. Il est donc important de valoriser nos talents, frères et sœurs. Valoriser nos talents. Et je reviens sur le fait d'être positif. Car certaines personnes aimeraient avoir un talent que ce qu'elles ont, un autre talent que ce qu'elles ont. S'en plaignent, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps à ne rien faire avec le talent que vous avez déjà. Tous les talents sont utiles, vous savez, et tous nous viennent de Dieu. Alors, positivement, Encore une fois, prenons conscience de nos talents, développons-les aujourd'hui avant que le royaume vienne et soyons reconnaissants. Développons par l'éducation. Monsieur Claude vous a donné des pistes là. Je sabre dans mon sermon maintenant. Merci. Vous avez l'expérience professionnelle. Il y a toute autre piste, hein, mais il faut développer vos talents. Luc chapitre 12 maintenant. Luc chapitre 12, verset 42. Luc chapitre 12, verset 42. Partie de verset 42, si vous voulez bien. Luc chapitre 12. Partie de verset 42. Le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Hein, il travaille. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Et verset 45. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les infidèles. Et le serviteur qui, ayant connu la vérité, la volonté de son maître, autrement dit, qui agit en toute connaissance de cause, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Je crois que c'est clair. Hein? Luc chapitre 22, s'il vous plaît. Verset 24. Luc chapitre 22, verset 24, maintenant. Nous aurons des postes importants. Très important. Mais nous ne ferons rien de bon, frères et sœurs, si nous n'avons pas l'humilité. L'humilité est incontournable pour être un bon serviteur de Dieu. Quelque chose que nous devons nous inculquer maintenant. Luc chapitre 22. C'est un avertissement ici, mais il y a quand même des choses très, très positives. Lisons ici Luc 22, verset 24. « Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ?» Un manque d'humilité. Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. » Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table, hein, le grand chef, hein, qui est assis devant tout le monde? Et moi? Cependant, je suis, et voilà l'exemple ici, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est Jésus-Christ, notre frère aîné, qui parle. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose d'un royaume en votre faveur. Il parle à vous et à moi. C'est pourquoi je dispose d'un royaume en votre faveur. comme mon Père a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur les trônes. Il parle ici à ses disciples pour juger les 12 tribus d'Israël. Par conséquent, frères et sœurs, aujourd'hui, et demain, et après-demain, et sans cesse, demandez-vous si vous êtes suffisamment humble. Cultivez l'humilité. Cultiver l'humilité est une façon de nous préparer pour le royaume de Dieu. Nous devons considérer les autres comme étant meilleurs que vous. C'est aussi simple que ça. Il est stérile de s'élever au-dessus des autres, comme le Christ l'a expliqué à ses disciples. Nous serons des rois pour gouverner avec humilité. Et nous allons réconforter les gens aussi. Troisième point. Nous allons réconforter les gens qui auront traversé des événements que nous avons passés en revue à la fête des trompettes. Matthieu chapitre 5, verset 4, vous le notez, Matthieu 5, 4, qui dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Qui va les consoler? Vous. Vous allez les consoler. Nous serons des consolateurs. Les gens qui auront survécu à la grande colère de Satan, de Dieu, auront été traumatisés par ce qu'ils auront traversé. Ils seront meurtris. Ils auront été traumatisés par l'état de la société qui est une société de perversion, d'injustice. Nous devrons les consoler, les encourager, les aider à surmonter tout ça, avec l'aide de Dieu, bien entendu, qui séchera toutes les larmes. Mais concrètement, comment pouvons-nous nous préparer à ce rôle? Eh bien, tout simplement en faisant preuve d'empathie pour les gens, en s'intéressant à eux, en les écoutant, en les encourageant, sans les juger, sans les critiquer, en les réconfortant, ceux qui sont affligés. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un impact positif sur des gens. D'ailleurs, Dieu nous ordonne de le faire envers celui qui est péché. Et je vous rappelle que nous avons tous péché, n'est-ce pas? Lisons ce que Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 5 au verset 7. C'est Paul qui écrit ici. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Une petite reproche ici. Verset 6. Il suffit pour cet homme de châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler. Pardonner et le consoler, verset 7. De peu qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. On est là pour encourager les gens, pour les aider, pour apporter un réconfort à ceux qui souffrent, ceux qui sont affligés. Nous serons des enseignants, je vais en parler brièvement. qu'allons-nous enseigner? Mais une manière de vie bien différente du monde, bien entendu. Une manière de vivre basée sur la loi de Dieu. Psaume 119, le 119e psaume, versets 32 et 33. Psaume 119, verset 32. Psaume de David. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi. C'est ça qu'on doit demander à Dieu déjà. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Pour enseigner, il faut le vivre, il faut le connaître. Il faut bien connaître sa matière. Il faut maîtriser, bien maîtriser le sujet. Nous devons donc, de manière concrète, étudier la voie de Dieu, étudier la loi de Dieu, étudier la parole de Dieu. Nous devons nous éduquer avant de pouvoir enseigner. L'éducation est quelque chose que nous ne devons jamais négliger. D'ailleurs, l'observance annuelle des fêtes divines fait partie de notre éducation. Elle nous enseigne le plan de Dieu. Chaque année, nous reflétons, nous pratiquons la fête de Dieu. Dieu nous éduque continuellement. Il nous donne une sainte convocation tous les sabbats pour apprendre. Et il permet que nous ayons des épreuves pour apprendre. Isaïe chapitre 30, verset 20. Et verset 21. Isaïe chapitre 30, verset 20. Et en fait, à notre tour, nous allons éduquer les gens qui seront sur terre. Isaïe chapitre 30, verset 20, nous lisons: Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. C'est vous et moi, espérons, n'est-ce pas? Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Alors préparons-nous, frères et sœurs, déjà ce travail d'enseignant en étudiant, sans nous enlacer. La parole de Dieu. Un cinquième point. Nous allons reconstruire le monde. Amos chapitre 9, verset 14. Amos chapitre 9, verset 14, s'il vous plaît. Amos chapitre 9, verset 14. Et nous lisons ici: je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays. Et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Certains d'entre nous ont un talent direct avec cette reconstruction. Monsieur Whitfield voudrait faire du jardinage, peut-être. D'autres vont reconstruire des bâtiments en forme de pyramide. cube. Mais la reconstruction du monde touchera des tas d'aspects. Hein? Les talents que Dieu nous a donnés sont des choses qui nous seront utiles pour cette reconstruction. Et encore une fois, la préparation pour ce travail de reconstruction que nous superviserons est le développement de nos talents aujourd'hui. Et je pense que ce sera une véritable révélation pour nous de découvrir combien nous pouvons aider et combien notre société a fait fausse route dans tous les domaines comme l'urbanisme. Nous allons reconstruire des villes, mais des villes telles que Dieu les conçoit. Des villes où il fera bon vivre, des villes où on sera en sécurité, des villes où les personnes âgées ne devront pas craindre qu'on les agresse pour le dérober leurs économies. Zacharie chapitre 8, verset 4 au verset 9. Zacharie chapitre 8, s'il vous plaît, à partir du verset 4. Zacharie chapitre 8, verset 4. Je regarde Zacharie là. Hein? Zacharie chapitre 8, verset 4. Si vous ne connaissez pas Zacharie, il était le plus petit. Je ne sais plus ce qui jouait Zacharie. Zacharie chapitre 8, verset 4, s'il vous plaît. Ainsi parle l'Éternel des armées, des vieillards et des femmes âgées assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons, de jeunes filles joueront dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient, du pays de l'Orient, du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Ces villes qui seront reconstruites, nous en aurons la responsabilité. Elles seront tellement différentes des villes modernes où règne la criminalité, la pollution. N'imaginez pas que vous serez libre de diriger les travaux n'importe comment. Dieu est très précis quand il donne des instructions. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible, n'est-ce pas? Souvenez-vous de la précision de ses instructions concernant le tabernacle et ensuite le temple. Il avait donné des dimensions précises, des matériaux précis. Il avait même donné des précisions concernant la façon de tailler les pierres. Vous imaginez, sans bruit? Pensez-vous que Dieu ne sera pas tout aussi précis pour son royaume? Mais bien sûr que si. Ézéchiel chapitre 43, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 43, verset 10 et verset 11. Que deux versets ici. Parce qu'en fait, Ézéchiel eut des visions. Je crois que c'était à partir du chapitre 40. Et il voit ce travail de reconstruction du temple. Ézéchiel chapitre 43, verset 10. Nous lisons ici, « Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'il en mesure le plan et qu'il rougisse de leurs inquiétés. » Et pardon, de leurs iniquités. S'ils rugissent de toute leur conduite Fais-le connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois. Mettons la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses desseins, toutes ses ordonnances, et qu'ils s'y conforment dans l'exécution, dans tout ce que nous allons faire et superviser. Hein? Et aujourd'hui, comment pouvons-nous nous préparer à un tel travail détaillé et minutieux? Tout simplement en apprenant à suivre les directives que Dieu nous donne maintenant, selon la lettre, selon l'esprit de la loi. Nous devons apprendre à exécuter ces directives avec précision. On ne pourra pas faire un travail approximatif, frères et sœurs. On devrait être respectueux à ce que Dieu nous demande de faire. Un autre point, le sixième point, nous allons nettoyer la nature. Nous allons être témoins d'un changement dans la nature. Nous allons nettoyer cette nature. Romains chapitre 8, verset 19, au verset 20. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Car la création a été soumise à la vanité, non à son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusque ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Si Claude, M. Whitfield, on en parlait. La nature des animaux va être changée. Isaïe chapitre 11. J'ai l'impression que vous n'avez pas bien saisi ces quelques versets. Alors, je vais le relire avec vous. Isaïe chapitre 11, verset 6 au verset 8. Je trouve ceci magnifique. Ceux qui habitent en Afrique du Sud, par exemple, quand ils voient un lion, eh bien, je le ressens maintenant, j'ai les cheveux qui se dressent derrière la nuque là. Hein? Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec les chevreaux. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Quel changement! Ce sera incroyable. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Le petit un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'entrée de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, que pourrions-nous faire pour préparer à ce travail? À ce travail pour nettoyer la nature. Bien, la meilleure façon de nous préparer à ce travail est de respecter la nature aujourd'hui. Un chrétien ne doit pas polluer, il doit agir avec respect envers les mécanismes naturels créés par Dieu. Et si vous vous promenez dans la nature, vous remarquerez toute saleté que vous trouverez est l'œuvre d'un homme par les animaux. Jamais un animal. Un chrétien ne doit pas traiter la nature comme une poubelle. L'humanité moderne a pris conscience qu'elle a abîmé beaucoup de choses, y compris les océans, avec des vastes étendues de plastique. Hein. Vous avez peut-être vu les images à la télévision. Les grandes étendues de plastique qui sont une catastrophe. Hein, pour les tortues, par exemple. Les tortues de mer qui se nourrissent de méduses et qui prennent des plastiques pour des méduses. Le monde a conscience de la pollution qui s'est développée aussi vite que la technologie. Et le monde est dépassé et subit des conséquences. Parfois, les hommes ferment les yeux en toute connaissance de cause sur des conséquences écologiques graves pour une question d'argent. Gagner de l'argent est bien plus important que de préserver la santé des gens ou la mer et agir dans la nature de manière irrespectueuse. Quant à nous, frères et sœurs, nous qui sommes appelés à contribuer à ce grand nettoyage, nous ne devons pas jeter les déchets n'importe où. Vous les ramassez hein, quand vous êtes sur le camp. Ah, pardon, sur le site. Je parle aux jeunes là aussi. On ramasse les déchets, on les jette à la poubelle, n'est-ce pas? Nous devons respecter la nature. Et ce respect existera dans le royaume. Michée chapitre 4, verset 4. Michée chapitre 4, verset 4. Ils habiteront chacun sous sa vigne, sous son figuier. Et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel les armées a parlé. Une vie paisible dans un petit jardin avec son figuier. Zacharie chapitre 8, verset 12. Zacharie chapitre 8, verset 12. Je reviens sur Zacharie 8. Zacharie chapitre 8, verset 12. Nous lisons ici, « Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de son peuple. » Alors, frères et sœurs, si vous cultivez un petit bout de terre, vous devez, vous aussi, mettre en pratique, dans la mesure du possible, n'est-ce pas, les lois de Dieu. Le repos de la terre. Tout ce qui concerne l'agriculture. C'est une bonne préparation pour ce travail qui nous attend. Et si vous ne cultivez pas, vous pouvez peut-être apprendre à cultiver. Vous pouvez vous éduquer et apprendre les lois bibliques qui se rapportent à l'agriculture. Ézéchiel chapitre 47. Ézéchiel chapitre 47. Nous avons vu, ou vous avez vu peut-être, hein, lors de la fête des trompettes, que les eaux vont s'ouvrir. Les eaux vont s'ouvrir lors du jour de la grande colère de Dieu. Mais quand on lit certaines descriptions du royaume, il y a un contraste. Et le contraste avec ces eaux changées en sang et la pureté des eaux est saisissant. Jetons un coup d'œil ici dans Ézéchiel chapitre 47. Il va y avoir un changement ici. Ézéchiel chapitre 47, verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendit sous la côte droite de la maison, au midi de l'autel. Et en fait, il s'agit de l'eau qui jaillira du temple. Ceux qui ont vécu à Jérusalem peuvent voir ceci. Ou ceux qui sont allés à la fête à Jérusalem, vous pouvez imaginer ceci. Fermez vos yeux un petit peu. Imaginez l'eau qui sort du temple. Et il me dit, verset 6, As-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Et quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Je ne vais pas vous dire quelle mer. Vous allez imaginer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Elles ne sont pas saines pour le moment. Si vous buvez cette eau, vous mourrez. C'est tellement salé. Je vous donne une indication là. Tout être vivant qui se meurt vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout et parviendra où parviendra le torrent. Les pêcheurs se tiendront sur ces bords depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. Vous prenez votre carte de la Bible de Jérusalem et vous verrez où c'est. On entendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme des poissons de la Grande Mer. La Grande Mer, c'est de l'autre côté de Jérusalem. Ici, la Méditerranée. Ils seront très nombreux. La qualité de l'eau sera exceptionnelle. Dieu prendra plaisir à rétablir la qualité des eaux, le sol, de l'air. Et frères et sœurs, nous aussi, c'est certain, on va participer à ça. Pourquoi? Parce que le septième point, nous serons les membres de la famille divine. C'est le septième point. Nous serons des membres de la famille divine. Soumis à notre Père, soumis à notre frère aîné, Jésus-Christ, nous allons devenir les frères du Christ. Romains chapitre 8, verset 29. Romains chapitre 8, verset 29, vous le notez. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Nous aurons le statut de membre de la famille divine. Et notre rang sera au-dessus de celui des anges, je vous rappelle. Jetons un coup d'œil dans Hébreux chapitre 2, versets 6 et 7. Hébreux chapitre 2, versets 6 et 7. Excusez-moi. Hébreux chapitre 2, verset 6. Oh, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Ou le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et aujourd'hui, frères et sœurs, concrètement, que faisons-nous? Nous apprenons à ressembler à Dieu. À ressembler à Dieu. Et pour cela, nous devons maintenant apprendre à le connaître, car sans le connaître, nous ne pouvons pas devenir comme lui, nous ne pouvons pas obtenir les promesses que nous espérons tous. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, s'il vous plaît, verset 3. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, nous lisons ici au verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. C'est pour ça que c'est si important de connaître Dieu. par sa propre gloire, par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part la plus grande et la plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La connaissance de la personne de Dieu, de sa personnalité, de sa sagesse, de ses intentions, pour nous tous, sont essentielles. Et une fois que nous comprenons qui est Dieu, quel personnage merveilleux et parfait il est, nous avons des instructions précises concernant ce que nous devons faire avec cette connaissance. Nous sommes responsables de cette connaissance, frères et sœurs. Soyez mes imitateurs, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1, comme je le suis moi-même de Christ. Et si nous devions résumer Dieu en un mot, quel mot trouvons-nous? Amour. Deux mots pour résumer Dieu. Perfection et amour. Ce n'est pas pour rien que la fête de pain sans levain dure 7 jours. Cette durée de temps nous fait prendre conscience que l'élimination du péché de notre vie dure toute la vie. Toute la vie, nous devons sonder notre cœur, notre vie, et chercher ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, afin de l'éliminer, n'est-ce pas? Nous devons également demander à Dieu de nous aider à voir ce que nous ne voyons pas, ce qui n'est pas clair. C'est ça le processus de perfectionnement que nous devons nous imposer. Bien entendu, ce processus n'aboutira jamais à la perfection tant que nous serons humains. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Le temps de la fin s'approche, n'est-ce pas? Seul Dieu est parfait. Et par conséquent, nous ne nous décourageons pas quand nous trébuchons. Prenons conscience de nos erreurs en nous relevant. Repentons-nous profondément et sincèrement en changeant. Demandons Dieu un pardon. Et de là, reprenons notre chemin vers la perfection. Ce processus de perfectionnement est l'œuvre de Dieu avec notre collaboration. Quant à l'amour de Dieu que nous devons imiter, afin de ressembler à Dieu, et nous pouvons prêcher de nombreux sermons, n'est-ce pas, à ce sujet, mais je ne mentionnerai que 2 aspects. La miséricorde et la bienveillance. Dans le contexte de notre préparation pour le royaume, en tant que fils engendré de Dieu, nous devons développer aujourd'hui toutes les caractéristiques de Dieu, n'est-ce pas? Nous devons pardonner aux autres. D'ailleurs, c'est une condition pour que Dieu nous pardonne à son tour. Et c'est très sage d'avoir mis cette condition. Cela nous oblige à aller vers les autres et à imiter Dieu, pardonner. C'est aussi une condition pour rentrer dans le royaume de Dieu. Dans sa grande sagesse, Dieu nous demande de pardonner aux autres avant d'avoir son pardon. Son pardon, nous en avons tous besoin, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 7, verset... Non, pardon, Matthieu chapitre 5, verset 7. Matthieu chapitre 5, verset 7. Nous lisons « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » La bienveillance est veillée au bien-être des autres. C'est agir pour leur bien. Il est tellement agréable de fraterniser, n'est-ce pas, dans une atmosphère ou dans un climat bienveillant. Hein? comme ici à la fête de tabernacle. Les disputes, l'animosité, ça c'est suivre la voie de Satan. Ça c'est conformer à la voie de Satan. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de réconciliation. Chercher la réconciliation est un acte de bienveillance profonde. Encore une fois, il y a quoi de donner des sermons ici. Frères et sœurs, la préparation au royaume ne peut pas être un concept abstrait. Ça doit être bien clair dans votre esprit. Nous devons passer à l'action. Nous devons préparer activement. Je vous ai donné une série de pistes pour vous préparer aux différentes tâches qui nous seront confiées. N'oublions pas, frères et sœurs, nous serons des sacrificateurs. Nous serons des rois. Nous serons des consolateurs. Nous serons des enseignants. Nous allons reconstruire le monde, y compris le nettoyage de la nature, parce que nous serons les membres de la famille divine. En Pierre, chapitre 5, verset 10, première épître de Pierre, chapitre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera pour rendre inébranlable. Alors réfléchissez bien, s'il vous plaît, frères et sœurs, à chacun de ces rôles qui sont les vôtres. Préparez-vous au retour du Christ et pour son règne sur cette terre qui viendra très bientôt.